Bonjour, professeur Jean-Marie Kouakou.
Bonjour, monsieur Soro.
Coup d'État au Mali, coup d'État au Burkina, coup d'État en Guinée, coup d'État au Niger. Pourquoi tant de coups d'État, selon vous, dans la sous-région?
Je crois que déjà, vous faites bien d'insister sur la répétition. Vous avez aligné sous forme d'inventaire ces coups d'État. Mais je crois que la répétition, c'est toujours le début de la signification. Bon, pourquoi tant de coups d'État dans notre région particulièrement, et puis particulièrement en Afrique de l'Ouest? Je dirais précisément en Afrique francophone. L'Afrique de l'Ouest, il y a quand même des anglophones. Et le silence radio dans les États anglophones et beaucoup de bruit dans les États francophones. C'est la grande question à se poser. Et je crois que, évidemment, le fait que ce soit francophone incite à s'interroger d'abord sur la présence française, peut-être. L'Élysée ne s'est peut-être pas posé les bonnes questions. Il y a eu le coup d'État. Et chaque fois qu'il y a eu le coup d'État dans tous ces États, on a observé le même principe, les mêmes schémas. Le coup d'État est déclenché. On s'en prend d'abord à la diplomatie française, c'est-à-dire l'ambassade. Et derrière la diplomatie, on s'en prend au régime qui incarne cette diplomatie, donc la politique française. Donc la présence de la France en Afrique du point de vue politique. La gestion de l'Afrique par la politique, par le régime politique français. D'abord le diplomatique, le politique, et aussitôt après, on s'en prend au militaire, présence de l'armée française. C'est toujours le même schéma qui s'est opéré et qu'on a observé dans tous ces trois pays, tout au moins dans les trois derniers pays.
Alors, quelle signification tout ça?
Apparemment, toujours chaque fois que le coup d'État a lieu, la version officielle, la première qui est déclenchée, en tout cas, c'est toujours la question du terrorisme. On dit la présence française n'aide pas à la résolution terroriste. Et c'est pourquoi l'armée prend ses responsabilités pour remplacer un régime civil. C'est ce qui est toujours dit au départ. Mais au bout du compte, on se rend compte que ce qui est aussitôt après dénoncé, ce sont les accords avec la France. C'est la présence française elle-même qui est dénoncée. Donc, ça veut dire que, au bout du compte, aujourd'hui, on a peut-être une population, en tout cas dans les États francophones africains, qui est plutôt très différente, qui est complètement différente des gens de notre âge à nous, de notre génération, et qui est devenue de plus en plus nationaliste et souverainiste, et qui comprend de moins en moins la présence française, et d'ailleurs ce qu'on appelle derrière tout ça la France-Afrique. Et de plus en plus, ça devient un outil utilisé par les oppositions aux régimes en place. Voilà. Et donc, du coup, ça marche apparemment, puisque ça devient très populaire. Je dirais même populiste.
Alors donc, une population aujourd'hui jeune totalement différente de la population de nos générations. Expliquez à mon cousin d'Adjamé, simplement.
Oui, mais je voudrais dire simplement que il y a une époque où on a parlé de la France-Afrique depuis les années 60, en fait. C'est-à-dire il y a eu la période coloniale, il y a eu la décolonisation. La plupart des colons sont tous partis. Mais disons que la France coloniale est partie sans partir. Elle est restée en mettant en place des accords qui ont lié ces États avec elle. Les accords sont d'ordre militaire, c'est-à-dire présence française, base militaire française dans les États en question, et des accords au niveau monétaire et économique par la disposition du franc CFA et tout autre, par le dépôt de certains avoirs sur le trésor français. Enfin bref, il y a une série d'accords qui ont lié les deux parties. Depuis donc 1960, ces deux États-là, colons et colonisés, sont restés liés d'une certaine manière. Mais à l'époque, ça a été accepté par les populations africaines. D'ailleurs, de toute façon, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas vraiment, je dirais, de discours démocratique qui pouvait accéder à ces peuples. Et donc, la question a été relativement bien gérée par les régimes politiques en place, par les pouvoirs politiques en place. Aujourd'hui, il se trouve qu'on a les réseaux sociaux, on a des jeunes qui voyagent, on a la télévision, et tous ces jeunes-là comprennent aujourd'hui qu'il y a un problème quelque part. Et ils dénoncent cela. Et les oppositions à ces régimes en place qui sont encore jusqu'à présent restées liées à l'Élysée, ces oppositions ont compris le système et s'adressent directement à ces populations jeunes. Elles leur disent, voilà, votre pays est ainsi, vous ne pourrez jamais avoir accès à ceci, vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela, parce que, voilà, donc ce discours-là passe. Et malheureusement, l'Élysée aujourd'hui n'a pas compris qu'il y avait problème. Et l'Élysée reste encore dans ses dispositions et continue à donner des ordres. Et du coup, ça devient de moins en moins compréhensible, de moins en moins acceptable pour ces populations.
Et donc, une sorte d'échec de la politique française aujourd'hui?
Je pense que surtout, oui, en Afrique francophone, le discours ne passe plus. Le discours de la France-Afrique ne passe plus. Le système France-Afrique ne passe plus. Tout le monde, il passe de moins en moins. Et l'Élysée ne prend pas conscience de cela. Il donne encore des ordres de manière paternaliste et de manière autoritaire.
La France n'a rien compris en ce qui concerne les mutations du monde.
Exactement. Et surtout les mutations de l'Afrique. L'Afrique est en plein essor. Elle a une population qui est majoritairement jeune d'ailleurs, qui n'est pas du tout dans la relation ancienne avec la colonie. Oui.
Je vous remercie, professeur Jean-Marie Kouakou.
C'est moi qui vous remercie vraiment, monsieur Sauron.